Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du mardi 14 juin 2022. Avec vous, Eric Manilakidza. D'abord, le sommaire. Deuil national de 3 jours au Burkina après l'attaque contre le village de Seitenga qui a fait 79 morts dans le nord du pays. En Guinée, un membre des forces de l'ordre écroué pour un meurtre d'un jeune en marge d'une manifestation. Au Soudan, plus de 125 morts et 50 000 déplacés par les violences au Darfour selon l'ONU. Moscou annonce un couloir humanitaire demain mercredi pour évacuer les civils de l'usine azote de Severodonetsk. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Burkina Faso, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a décrété lundi soir un deuil national de 72 heures après une attaque de djihadistes présumés dans le nord du pays qui a fait au moins 79 morts. Le point avec Nani Tetalani.
Le deuil national a débuté hier à minuit et s'achèvera à la même heure le vendredi sur toute l'étendue du territoire. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics. Le décret précise que les réjouissances populaires et les manifestations à caractère récréatif sont interdites. Plus de 70 personnes sont mortes dans l'attaque perpétrée par des djihadistes présumés le week-end dernier contre la commune de Seitenga dans le nord du Faso, selon un dernier bilan annoncé par le gouvernement ce mardi. Les recherches se poursuivent. Seitenga a déjà été frappé jeudi par une attaque qui avait tué 11 gendarmes. L'armée a annoncé avoir tué une quarantaine de djihadistes à la suite de cette attaque. Les meurtres sont des représailles aux actions de l'armée qui ont fait des saignées au sein des groupes djihadistes, estime Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement burkinabé.
Le gouvernement togolais a décrété lundi l'état d'urgence sécuritaire dans la région des savanes, zone située dans l'extrême nord du pays ayant enregistré 2 attaques terroristes, indique un communiqué officiel prévu pour une durée de 3 mois. Conformément à la Constitution, cette mesure peut être prorogée sur autorisation de l'Assemblée nationale, a-t-il précisé. 8 soldats togolais ont été tués et 13 autres blessés dans la nuit du 10 au 11 mai dans une attaque terroriste dans le nord du Togo. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition. La représentante des États-Unis auprès des Nations Unies, l'ambassadrice Linda Thomas-Greenfield, se dit déçue face au manque de progrès du gouvernement de transition malien vers un régime démocratique. Elle a exhorté Bamako à s'entendre avec la CDAO pour élaborer des réformes avec des objectifs tangibles. Elle a expliqué à Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qu'un processus transparent et inclusif qui respecte la diversité et les libertés est essentiel pour construire une base solide pour l'avenir. La justice guinéenne a inculpé et écroué pour meurtre un membre des forces de sécurité. C'est dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un jeune tué par balle en marge d'une manifestation autour du prix des carburants. 4 autres sont placés sous contrôle judiciaire. Le point avec Abdelrahman Dia.
Le procureur général a annoncé que l'adjudant-chef Moriba Camara a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour des faits présumés de meurtre sur la personne de Thierno Mamadou Diallo. Dans un communiqué, Alphonse Charles Wright précise que les 4 autres membres des forces de sécurité ont été inculpés pour abstention délictueuse, c'est-à-dire pour ne pas avoir empêché la commission des faits présumés. Le procureur général avait promis de faire la lumière sur ce décès. Ces inculpations, le fait qu'elles soient rendues publiques et la divulgation des identités des 5 suspects sont rares en Guinée. Les défenseurs des droits humains accusent souvent les forces de l'ordre d'usage excessif de la force et dénoncent l'impunité dont elles auraient bénéficié. La mort de Thierno Mamadou Diallo, 19 ans, tué par balle lors de heurts entre forces de sécurité et manifestants, est une des premières depuis la prise du pouvoir par le colonel Mamadi Doumbia.
Deux casquets bleus marocains sont morts noyés accidentellement dimanche en Centrafrique. Il s'agit d'un accident malheureux, a déclaré par téléphone Vladimir Monteiro, porte-parole de la MUNISCA, précisant qu'ils sont morts noyés en se baignant dans la rivière à Rafai, à 700 km à l'est de la capitale Bangui, près de la frontière avec la RDC. Le gouvernement rwandais a de nouveau défendu mardi l'accord visant à accueillir des migrants expulsés depuis le Royaume-Uni, se disant prêt à en accueillir des milliers dans le cadre de ce programme qualifié d'innovant. La porte-parole du gouvernement Yolande Makolo a estimé que cet accord, critiqué par l'ONU et des organisations de protection des droits de l'homme, constituait une solution à un système d'asile mondial défaillant. La principale association de survivants du génocide au Rwanda a salué mardi la décision d'un tribunal onusien de traduire en justice Félicien Kabuga, financier présumé du génocide et dont les avocats affirmaient qu'il était inapte à être jugé en raison de son âge. Arrêté le 16 mai 2020 dans la banlieue de Paris après 25 ans de cavale, Félicien Kabuga est notamment accusé d'avoir participé à la création des milices Hutu Interahamwe. Âgé de 87 ans, M. Kabuga est actuellement détenu à La Haye dans l'attente de son procès devant le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux chargé d'achever les travaux du tribunal pénal international pour le Rwanda. Des opérations militaires des armées congolaises et ougandaises dans l'est de la RDC cachent des intérêts économiques qui empiètent sur la zone d'influence du voisin rwandais, estime un groupe d'experts dans un rapport publié lundi. Lancée fin novembre, l'opération Shuja avait pour objectif de neutraliser les rebelles du groupe ADF, auteurs de massacres de milliers de civils en RDC, ainsi que d'attentats djihadistes sur le territoire ougandais. 7 mois après, les opérations militaires n'ont pas le succès annoncé, écrivent les organisations groupes d'études sur le Congo et Ebouteli, liées à l'université de New York. Au Soudan, l'ONU a affirmé ce mardi dans un communiqué que le bilan des récentes violences au Darfour s'élève à plus de 125 morts et 50 000 personnes déplacées. Plus de détails avec Mohamedou Onfa.
Plus de 125 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées entre le 6 et le 11 juin, a indiqué OCHA, le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Plus de 25 villages Guimir ont été attaqués, pillés et incendiés et 50 000 personnes ont fui Colbous pour se réfugier dans les localités voisines de Sirba, Jebel Moun et Sarfa Omra, toujours selon OCHA. Un conflit foncier oppose les Rizega, une tribu arabe au Guimir, une tribu des non-arabes. Ibrahim Hachem, un chef de la tribu Guimir, avait fait état lundi de plus de 110 morts. Il avait noté également le déploiement du groupe paramilitaire des forces de soutien rapide à proximité des villages Guimir. Depuis le début de la guerre au Darfour en 2003, le gouvernement soudanais et ses milices Janjaweed ont été souvent accusés d'avoir tué des dizaines de milliers de personnes, incendié des centaines de villages et chassé de chez eux près de 3 millions de civils, malgré le déploiement de casques bleus dans cette région.
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a pour la première fois évoqué mardi de possibles futures négociations de paix avec les rebelles de la région du Tigré, révélant la mise en place d'un comité sur le sujet qui va rédiger un rapport détaillant les conditions préalables à des négociations, a-t-il précisé.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces ukrainiennes ont reconnu avoir abandonné le centre de Severodonetsk suite à une nouvelle offensive russe. Les deux belligérants se disputent cette localité de l'est de l'Ukraine depuis des semaines. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
L'ennemi a mené un assaut à Severodonetsk, a enregistré un succès partiel, repoussé nos unités du centre-ville, indique l'état-major ukrainien. Les combats de Russes se poursuivent, les Russes continuent de détruire la ville, selon Sergueï Gaïdaï, gouverneur de la région de Lugansk, dont Severodonetsk est le centre administratif. Selon les séparatistes pro-russes dans cette région, les dernières divisions ukrainiennes à Severodonetsk sont désormais bloquées après la destruction du dernier pont qui leur permettait de gagner une ville voisine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que le coût humain de la bataille de Severodonetsk est terrifiant. La prise de cette cité donnerait à Moscou le contrôle de la région de Lugansk et lui ouvrirait la route d'une autre grande ville, Kramatorsk, capitale de la région voisine de Donetsk.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Nanit Sylvani Talani.
La République démocratique du Congo et la Banque mondiale ont signé à Kinshasa deux conventions de financement de 900 millions de dollars pour stimuler l'entrepreneuriat féminin, l'accès à l'eau et à l'électricité dans les provinces du centre-ouest, l'est et l'ouest du pays. Ces opérations complètent un portefeuille d'opérations axé sur le renforcement du capital humain et la protection des ménages les plus pauvres, y compris les femmes, indique la Banque mondiale dans un communiqué mardi. En Afrique du Sud, la société Sibanye Stillwater annonce le redémarrage des opérations dans ses mines d'or après avoir signé un accord salarial de 3 ans avec les syndicats qui sera effectif à partir du 1er juillet avec une hausse salariale de près de 62 dollars pour les ouvriers. Les employés qualifiés recevront une augmentation de 5% la première année. Les mineurs de Sibanye sont en grève depuis le 9 mars pour réclamer une hausse de salaire.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Sylvain Bouo, suspendu 18 mois pour dopage.
Oui, le gardien des éléphants a été suspendu jusqu'au 23 juillet 2023 pour avoir été contrôlé positif à la triméthazidine, une molécule interdite depuis 2014 par l'Agence mondiale antidopage. L'annonce est faite par la commission disciplinaire de la FIFA. Sylvain Bouho a été testé positif après la défaite 1-0 subie par la Côte d'Ivoire contre le Cameroun en éliminatoire du Mondial 2022. Selon la décision disciplinaire, il a expliqué avoir souffert de problèmes de vue et avoir été envoyé par l'équipe médicale de sa sélection chez un ophtalmologue qui lui a prescrit le 29 mars 2021 du Vastarel, un médicament qui contient la triméthazidine. Il affirme n'avoir pas su que le produit était interdit. L'Agence mondiale antidopage prévoit en principe 4 ans de suspension pour un contrôle positif, mais la commission disciplinaire de la FIFA a estimé que le portier ivoirien a intégré inintentionnellement la substance interdite, réduisant sa sanction à 18 mois à compter du 23 décembre 2021.
Et la Tunisie bat le Japon en finale de la Coupe Kirin.
Oui, avec 3-0 à Osaka, la Tunisie a remporté ce tournoi à 4 en pleine préparation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le milieu de terrain Mohamed Ali Ben Roudman a ouvert le score sur pénalty à la 55e minute avant que Ferjani Sassi et Ali Mahloul ne complètent le score à la 76e minute, eux dans le temps additionnel. Les Aigles de Carthage figureront dans le groupe D avec la France, le Danemark et l'Australie en phase de poule de la Coupe du Monde prévue du 21 novembre au 18 décembre prochain. Le Japon est lui aussi qualifié pour le Mondial Qatari et aura fort à faire dans le groupe E avec l'Allemagne et l'Espagne.
Basketball, les Warriors se rapprochent du titre NBA.
Porté par Andrew Wiggins, auteur de 26 points et 13 rebonds et Klay Thompson, 21 points, Golden State a remporté aux dépens de Boston 104-94. Le cinquième match de la finale NBA à San Francisco, les Warriors mènent désormais 3-2 et sont à une victoire d'un septième titre de champion. Pour la première fois de sa carrière, Stephen Curry, double MVP 2015 et 2016, n'a pas mis un seul panier à 3 points dans un match de play-off. Le meilleur shooter de l'histoire a toutefois su rapporter 16 points et 8 passes décisives. En quête d'un 18e titre record, les Celtics devront réagir jeudi dans leur TD Garden pour arracher un 7e match décisif prévu dans ce cas-là dimanche, de nouveau à San Francisco.
Enfin, tennis, Serena Williams invitée à Wimbledon.
La star américaine du tennis qui n'a plus joué depuis son abandon l'an dernier au premier tour de Wimbledon a reçu une invitation pour participer à la prochaine édition du tournoi londonien du 27 juillet au 10 juillet, ont annoncé les organisateurs. Serena Williams, 40 ans, qui a remporté 7 fois le titre sur le gazon londonien, est retombée à la 1208e place mondiale. La cadette des sœurs Williams jouera en double le tournoi sur gazon d'Isbourne, associée à la Tunisienne Hans Jaber, 4e mondiale, selon les organisateurs de ce tournoi préparatoire au majeur.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakiza de retour avec vous. Place au dossier du jour. Le Burkina Faso a entamé ce mardi un deuil national de 3 jours après l'attaque qui a fait au moins 79 morts à Seitenga dans le nord, selon un nouveau bilan. D'après l'Union européenne qui a condamné cette attaque, le bilan pourrait atteindre une centaine de morts. Les meurtres du week-end sont des représailles aux actions de l'armée qui ont fait des saignées au sein des groupes djihadistes, a estimé le porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo. Avant Seitenga, le pays a connu des attaques aussi meurtrières dont Solhan et Inata. Où va le Burkina, s'interroge le quotidien privé Le Pays. Yacouba Ouedraogo a joint à Ouagadougou Bundi Woba, directeur des rédactions du journal Le Pays.
Selon certaines sources locales que nous avons pu nous rejoindre, c'est plus lourd que le gouvernement est annoncé. Du côté du gouvernement, on se fait rassurant en laissant croire que les chiffres que les uns et les autres balancent sur les réseaux sociaux ne sont pas exacts ou ne sont pas vérifiables. Mais il reste entendu qu'il y a sur place des rescapés qui disent que le bilan est plus catastrophique que ce que communique le gouvernement. Une pression qui se dégage de façon générale au sein de l'opinion burkinabé, c'est que c'est comme si le gouvernement travaillait à camoufler la réalité du terrain, histoire de laisser croire que la situation s'améliore alors qu'il n'en est rien. Ça me rappelle, soit dit en passant, le massacre de Solan l'année dernière, où aussi on avait assisté à une guerre de Chypre.
L'attaque a commencé samedi dans la soirée. 2 jours plus tôt, jeudi, il y a eu une attaque qui a fait 11 gendarmes tués. On se demande comment cela a pu se produire juste 2 jours après.
Juste après les différentes attaques que vous venez de citer, il y a eu des renforts qui arrivent. Les populations avaient applaudi, laissant croire qu'elles seraient mieux protégées. Mais on s'est rendu compte qu'après, ce que l'on considère comme une percée de l'effort de l'ordre sur le terrain, parce qu'il y avait eu en réaction une quinzaine de terroristes qui avaient été abattus, pratiquement toutes les forces de défense et de sécurité sont reparties, abandonnant les populations à elles-mêmes au risque de représailles. Naturellement, les terroristes qui ne cherchent que des actions déclarent ont profité de l'occasion pour revenir et en surnombre, naturellement, le bilan ne pouvait être que ce qu'il est aujourd'hui. Donc l'erreur qu'a commis notre armée, c'est d'avoir levé complètement le camp une fois les opérations de ratissage terminées. On a l'impression que c'est devenu pratiquement la mode après les opérations de ratissage. On se rend compte que les forces de défense et de sécurité lèvent le camp et mettent les populations à elles-mêmes. J'en veux pour preuve ce qui est arrivé à Maguari le 26 mai dernier, où après l'attaque, les forces de défense et de sécurité sont complètement parties. C'était le seul qui peut. Chaque habitant était obligé maintenant de chercher où aller se réfugier. C'est là que ce sont une dizaine de personnes qui avaient été héliportées vers Fadal Gourma, qui est une population estimée à 5000 âmes. Vous imaginez à quel point c'est dangereux.
Avant Seitenga, il y a eu des attaques aussi meurtrières à Inata ou encore Solhan. L'armée a débarqué le président Roch Kabore. Elle a pris le pouvoir. Les attaques continuent. Je reprends le titre de votre journal Le Pays. On se pose la question, où va le Burkina?
Aujourd'hui, on a l'impression que depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, la situation devient pire qu'elle n'était avant. À preuve, on est en train de perdre le contrôle de certaines localités qui étaient sous le contrôle de nos forces de défense et de sécurité. On nous dit qu'il y a des localités qui ont été reconquises par nos forces de défense et de sécurité, mais pas à même de nous communiquer le nom de ces localités. Comme si il y avait quelque chose qui nous avait caché. Et le fait qu'à se trouver, c'est quand nous, en communiquant le nom de ces localités, et que nous devons repartir et investir ces lieux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, s'il y a un village, une localité, c'est que les habitants y sont retournés. Les ressortissants de ces différentes localités qui vivent à Ouagadougou ou à Fadal Gourma ou à Ouagadougou, se feront des corps et feront que sur la toile. On ne peut pas nous dire la réalité des faits. On tente de traverser les faits pour ne pas croire que nous aurons l'air qu'il n'y a rien. C'est là que c'est dangereux.
Bundi Woba, directeur des rédactions du journal Le Pays, joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Togo, le gouvernement annonce l'instauration de l'état d'urgence dans la région des savanes, dans l'extrême nord, qui a été le théâtre d'une attaque contre un dispositif militaire avancé situé dans la localité de Pepakandi, dans la préfecture de Pendjal, proche du Burkina. 8 soldats togolais ont été tués. De Lomé, notre correspondant Kossi Wusu.
L'annonce de l'instauration de l'état d'urgence dans la région des savanes a été faite à la suite d'un conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement, Akoda Ayewadan.
L'état d'urgence qui est pris aujourd'hui va avoir un objectif premier. C'est de donner les moyens à l'administration, aux services publics et aux forces de défense et de sécurité d'aller plus vite dans leurs actions. Vous savez, c'est une mesure d'exception et cette mesure d'exception intervient pour une situation particulière. On le sait tous, la région est la cible d'attaques terroristes et l'État a besoin d'agir, mais d'agir vite et efficacement.
Pour le ministre Ayewadan, l'état d'urgence va créer les conditions nécessaires à la bonne conduite des opérations militaires, au maintien de l'ordre et de la sécurité dans cette région. Sur les implications de cette mesure sécuritaire, Payado Aboukwesi, le ministre de l'administration territoriale.
D'abord, il y a l'assignation à résidence. La police et la gendarmerie peuvent procéder à des opérations de contrôle d'identité ou d'interpellation sur la voie publique. La possibilité de visites domiciliaires et de saisies. Il y a enfin le contrôle des sites internet et des services de communication en ligne.
Rencontré dans la capitale Lomé, Agbo estime que le gouvernement doit aller plus loin.
Je pense que l'état d'urgence dans les savanes, c'est une très bonne chose, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, c'est la savane, c'est dans le nord. Ça va passer par le sud, ça va passer par l'est ou l'ouest. Donc s'il faut quand même prendre des décisions, des mesures, c'est tout le Togo, ce n'est pas dans les savanes seulement.
Albert Agbeko est journaliste. Il convie les militaires à éviter les bavures, comme ce fut pour l'état d'urgence sanitaire.
Pour l'état d'urgence sanitaire, c'était des policiers qui sont plus proches de la population, mais il y avait eu ces bavures. Maintenant que c'est des militaires qui sont souvent casernés, nous avons des inquiétudes que ces événements malheureux ne se reproduisent dans cette région-là. C'est pourquoi nous interpellons la haute hiérarchie militaire.
Le ministre de l'administration territoriale rassure et précise que tout se fera dans le respect des dispositions légales du pays, avec le respect des droits humains. Payado Aboukwesi a rassuré les populations et les a invités à prendre ces nouvelles mesures avec sérénité et surtout collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité pour réussir la lutte contre le terrorisme. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Tchad, une partie des retraités militaires, civils, veuves et orphelins ont constitué un comité de crise. Ils exigent le départ du directeur général de la CNRT, la Caisse nationale des retraites du Tchad, et son staff. Ils accusent l'équipe actuelle d'avoir bloqué le dossier pour le paiement de leurs arriérés de pension. André Kodimadjingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena, fait le point.
Nous ne voulons pas de l'actuel directeur de la Caisse nationale des retraites du Tchad. C'est le seul slogan escandé par les personnes de troisième âge, visiblement abattues par l'âge et rongées par la faim. Ce groupe revendique plusieurs arriérés de coupons qui, selon eux, remontent à 10 ans pour certains et 5 ans pour d'autres.
Le PCA a dit que ça fait 4 mois qu'il y a l'argent avec lui. Ils sont en train de faire la commerce avec ça et ils nous tuent à petit feu.
Quelqu'un vient rester comme ça seulement avec le souci, il est mort.
Nous avons combattu pour le Tchad. Les gens ne veulent pas nous payer et ils prennent nos argent, ils nourrissent leur famille avec et nous souffrons.
Pour le directeur général de la Caisse nationale de retraite du Tchad, Larry Mbaou, c'est un groupuscule monté de toutes pièces par un seul individu. Sinon, il travaille avec les 3 syndicats de retraités légalement reconnus.
Les autres groupes se sont constitués de façon informelle, dès lors qu'il y a déjà un syndicat. Mais on ne peut pas passer tout le temps à recevoir des groupuscules parce que les groupes se sont tellement multipliés. Donc on leur a dit désormais on travaille qu'avec les syndicats et on s'est entendu, les syndicats même se sont unis déjà et maintenant ils se sont constitués une 60aine de personnes Et eux, ils disent que leur groupe, c'est à part. Ils ne sont pas du syndicat. On a dit, dans ce cas, arrangez-vous. Mais nous, ça ne nous concerne pas parce qu'on ne peut pas parler avec tout le monde. Il y a 32 000 retraités. Si chaque groupe doit se constituer pour qu'on parle avec tout le monde, je ne sais pas comment on peut se comprendre.
Les retraités membres de ce comité de crise informent à VOA Afrique qu'ils reconnaissent M. Blaguejean comme leur porte-parole. Ils n'appartiennent à aucun autre syndicat et exigent le départ du directeur général de la CNRT et de toute son équipe.
S'il ne reconnaît pas Blaguejean, il ne reconnaît pas tous les retraités. C'est nous qui l'avons désigné d'être à la tête des retraités.
On ne reconnaît pas ces syndicats.
On reconnaît seulement Blaguejean. On va mourir avec Blaguejean. Nous sommes là derrière Blague. Celui qui ne veut pas Blague, lui, il n'a qu'à quitter.
Donc nous, on demande son départ. Il n'a qu'à quitter. On a combien de Tchadiens qui sont là, qui peuvent nous aider? Nous, on ne veut pas. Avec son équipe, ils n'ont qu'à partir.
Le directeur général de la CNRT, Larry Baou, informe que l'instigateur de ce groupe sera poursuivi devant les juridictions compétentes pour ses actes contre l'institution.
Un individu qui prend 2-3 personnes qui vient fermer toute une institution, il empêche les gens de travailler. Mais ça, c'est quand même du désordre. Donc on l'a averti une fois. Une deuxième fois, on a porté plainte, mais il y a eu des négociations, on a laissé tomber. Et maintenant encore, il menace de fermer la porte. C'est un seul individu, Jean Blagué, qui est un perturbateur récalcitrant.
Il appelle par ailleurs les retraités au calme, car, dit-il, tout est fin prêt pour déclencher le paiement de leur pension d'ici jeudi, et donc qu'ils prennent leur mal à patience. André Kodouma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une cinquantaine de présidents et ministres ainsi que des centaines de chefs d'entreprise africaines prennent actuellement part à Abidjan, Côte d'Ivoire, au sommet annuel de l'Africa CEO Forum, un rendez-vous de débats et de conférences du secteur privé africain. C'est un reportage de Anne Nzwanke à Abidjan, Côte d'Ivoire.
L'Africa CEO Forum, un rendez-vous de débat et de conférences du secteur privé africain, se tient cette année dans un contexte marqué par la pandémie de COVID qui ralentit les activités depuis 2 ans, ainsi que la crise entre la Russie et l'Ukraine qui se répercute sur l'Afrique. Alassane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire, présent à ce forum, exprime ses inquiétudes.
Évidemment, cette situation de pandémie a été accentuée avec la crise en Ukraine et ses répercussions économiques et sociales, et même financières dans le monde. Nous sommes donc préoccupés, c'est le moins que je puisse dire, par le ralentissement de la croissance mondiale et le problème de la disponibilité pour l'Afrique de certains produits tels que le blé et les engrais, et bien sûr la poussée inflationniste alimentée par la situation également de l'augmentation des prix du carburant.
Durant la conférence, il est question de définir de nouvelles routes vers la prospérité du continent. Les décideurs africains vont réfléchir sur des thèmes aussi variés que l'indépendance économique de l'Afrique, comment faire face à la cybersécurité, l'accélération du commerce intra-africain ou encore la contribution du secteur privé face à l'insécurité alimentaire. Albert Zefak, l'économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Afrique, parle de la productivité en agriculture.
Let me just give you one number. 83%.
Laissez-moi vous donner un chiffre, 83%. Je répète, 83% des pauvres en Afrique vivent de l'agriculture de subsistance. Nous ne pouvons pas continuer dans ce modèle. Nous devons stimuler la productivité de l'agriculture en investissant et non en distribuant davantage de subventions. Si vous regardez les dépenses publiques en Afrique dans l'agriculture pour les pays africains, la plupart vont dans les subventions et non dans l'investissement et l'innovation qui augmenterait la productivité. Si nous faisons cela, et plus la productivité augmentera, et plus les gens quitteront l'agriculture pour des activités plus productives. Mais ceux qui resteraient vivraient mieux.
Martha Diop, qui dirige la Société financière internationale, une filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, met en avant les solutions technologiques.
Bien sûr, tout ça se fera de manière différente. Nous sommes à l'époque du numérique. Nous avons des start-up talentueuses. Nous avons beaucoup de talents en Afrique. Et les investissements qui seront faits en matière de clubs sous-marins devraient permettre d'accélérer cette transformation économique et structurelle de nos économies.
Les organisateurs de l'Africa CEO Forum 2022 espèrent que ce type de rencontre pourra aider à construire une Afrique unie face aux enjeux mondiaux, forte vis-à-vis de ses partenaires internationaux et protectrice vis-à-vis de ses populations. Anne Zwanke à Abidjan pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Eric Manelakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.